Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, le ministre Roberge dévoile des pans de son chantier pour l'avenir du français. Sobriété énergétique, Québec va d'abord serrer la vis aux entreprises avant de passer aux particuliers. ChatGPT a attiré son premier million d'utilisateurs en seulement 5 jours. Une fusillade dans une synagogue à Jérusalem fait 7 morts.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors ce matin, c'est le caucus de la CAQ qui terminait à Longueuil, mais qui a amené toutes sortes de ministres, comme c'est souvent le cas, à faire quelques sorties pour parler de leur programme. On a déjà entendu M. Drainville le faire hier. Et là, ce matin, c'était le tour aujourd'hui de Jean-François Roberge, désormais ministre de la langue française, qui présentait certains pans de son plan pour le chantier là, de l'avenir du français au Québec. Tout d'abord, parler d'une vaste campagne publicitaire qui va être lancée pour sensibiliser les citoyens au déclin de la langue commune. Parce que ce que M. Roberge disait aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas certain que tout le monde est au courant d'à quel point les statistiques sont alarmantes par rapport au français. Donc, veut tout d'abord sensibiliser les gens à cette cause-là. Oui, on l'entend souvent un peu partout là, dans les médias, mais veut en faire vraiment une cause gouvernementale, veut également s'attaquer au contenu numérique américain qui est omniprésent, évidemment, avec les géants Netflix, Amazon de ce monde, auprès des jeunes tout particulièrement, pour valoriser auprès d'eux le contenu québécois, évidemment, bien particulièrement le contenu français. Il va y avoir des consultations toute l'année. Il y a une équipe qui a été montée, là, comité d'action interministérielle, c'est comme ça qu'on le nomme. Et donc, d'ici l'automne, on devrait avoir fini les consultations, être prêt à présenter les autres mesures de ce chantier. À date, qu'est-ce que t'en penses, Mario, de ce qu'on en voit?
Ben, c'est difficile à commenter parce que, je veux dire, on forme un groupe de travail, un groupe d'action. Ils ont l'air à tenir au mot action. On comprend, là, il y aura de l'action, mais ça reste un comité pareil. Est-ce que ça implique, tu sais, si on me demandait, est-ce que ça implique les bons ministères? Oui, oui, c'est les bons ministères qui sont là, tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par la langue, sauf que, quand t'es dans un sentiment d'urgence, on t'annonce qu'on fait un comité, t'es obligé d'en conclure que là, le gouvernement a fait sa loi 96, c'était une étape, on commence à la mettre en application, mais que là, on sait plus trop quoi faire. T'sais, d'abord, si on forme un comité, c'est parce que là, la prochaine étape, on la sait pas, mais que là, on n'est pas tout sûr. Donc, on va travailler là-dessus. Alors, oui au constat, oui à la volonté de faire un effort, mais bon, pour le reste, on commentera quand on aura les détails. Moi, c'est pas une sortie qui m'a impressionné un matin, là. Je suis content de voir que le gouvernement garde la langue comme priorité. Mais quand on forme un groupe d'action ministérielle, puis il y a toujours un danger que ça se perde un peu d'un dédale. Chacun des ministères va vouloir amener sa contribution, mais avec des affaires un peu technocratiques. Est-ce que
t'étais surpris de voir que Simon Jolin Barrette n'en fait pas partie, lui qui avait piloté le projet de loi?
Ouais, mais il est ministre de la Justice, là, il est pas directement. Les ministres impliqués, là, c'est pas compliqué. C'est culture, c'est les deux, éducation, enseignement supérieur, les deux qui ont trait là, à l'éducation. Ouais. La ministre de l'Immigration, évidemment, la ministre des Affaires internationales, parce qu'elle est aussi responsable de la francophonie. Ça tourne autour de ces thèmes-là. Donc, quand on aura les actions, on pourra juger. J'espère par contre que ça traînera pas trop parce que le danger là, c'est que groupe de travail ministériel comme ça, le danger c'est que tu sois rendu à la fin. Bon, le comité travaille pendant un an. Là, ils font des recommandations. Le temps que ce soit adopté, que t'arrives à la fin du mandat.
Mais là, c'est pas un comité.
Mais non, c'est un
comité d'action. Mario,
c'est un groupe d'action.
Je me suis trompé.
Je me suis trompé.
Il y a également une sortie aujourd'hui du premier ministre qui est directement intervenu pour parler de ce projet de sobriété énergétique que le ministre de l'Énergie et de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a parlé dans les dernières semaines, qui avait beaucoup fait jaser quand même en parlant de sobriété énergétique, avait évoqué toutes sortes de mesures qui pourraient venir influencer le particulier à dépenser moins d'électricité chez soi, changer les tarifs, par exemple, de manière dynamique pour qu'on ait une plus grande tarification aux heures de pointe, par exemple, pour inciter les gens à dépenser de l'électricité à des moments un peu plus inopportuns. Mais finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on met tout ça sur la glace et qu'on va tout d'abord franchir une première étape, celle de serrer la vis aux entreprises cet automne avant de le faire aux consommateurs. Et ce qu'on dit, c'est que on veut, entre autres, rendre la vie difficile aux entreprises qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre pour obtenir des rabais sur l'électricité. Donc,
parce que là, en général, beaucoup d'entreprises ont des rabais sur l'électricité. Là. C'est, ouais. C'est un peu à ça qu'on met fin, dans le fond. Mais en disant, pour celles qui vont vraiment être les champions de la décarbonation, on va garder des tarifs intéressants. On va garder des incitatifs pour récompenser celles qui vont participer plus activement à la lutte au changement climatique. Moi, je trouve ça parfait. C'est juste que de mettre de côté les particuliers, ça, c'est de la politique, là.
Oui, ils ont vu que la réaction était pas extraordinaire.
Là, on n'est plus dans la gestion énergétique, on n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans l'écologie, on est dans la politique pure. On se rend compte que le public est bien sensible sur son compte d'hydro. Je peux comprendre que c'est pas une très bonne année pour jouer dans la tarification. Les gens viennent de se faire ramasser par une augmentation générale du prix du coût des aliments, du coût de la vie en général l'année passée, plus les taux hypothécaires. Donc, on comprend que là, le gouvernement se dit « Ouais, c'est pas trop le moment de jouer dans les tarifs d'électricité.
Ouais. »
Sauf que, c'était plein de logique, là, l'idée d'une tarification différenciée par heure. Si tu veux une utilisation optimale de ton électricité, si t'es conscient que notre électricité a une grande valeur, nous, à nous-mêmes, on se la vend pas cher parce qu'on l'a produit pour pas cher. Mais sur le marché nord-américain, elle a une grande valeur qu'on pourrait vendre pour... Tu sais, c'est un peu... J'ai toujours eu comme exemple, là. Mettons que au Québec, on produisait pas de l'électricité, mais des tomates. Mais quelque chose de fou, là. Des tomates.
Okay? Les meilleures tomates au monde.
Ah, mais des tomates. Puis moi, je te disais, mais nous, on va se les vendre à nous-mêmes pas cher, les tomates. 5 cents de tomates. Tellement pas cher que moi, je vais engraisser mon jardin. Plutôt que d'acheter de l'engrais chimique ou une autre forme d'engrais ou faire du compost, je vais mettre des tomates dans le jardin. Ils vont pourrir, ça va faire une forme de compost. Parce que sont tellement pas chers, je n'achète une caisse.
Puis à ce prix-là, mais tu peux en acheter pour lancer chez ton voisin si tu l'aimes pas.
Non, tu vas me dire, c'est un gaspillage de valeur des tomates parce qu'on pourrait vendre les tomates à l'étranger à 4$ du panier. Puis on enrichirait le Québec si on vendait toutes ces tomates-là. Donc, c'est les vendre. Le point, c'est que se vendre quelque chose à soi-même à très, très, très bas prix, puis qui fait que tu le gaspilles, c'est pas une mesure économique efficace. C'est mieux à la limite de baisser les impôts, de donner des aides aux plus pauvres qui ont des logements mal chauffés, mais de dire, bon, puis pas nécessairement, je parle pas de quadrupler la facture, mais ne serait-ce qu'une tarification différenciée, de dire, regarde, là, les heures de pointe, ça va coûter un peu plus cher la nuit. Puis tu sais, t'as plein d'exemples. T'as des gens, par exemple, les retraités, des gens qui travaillent pas. Ben, eux, ils sont capables d'éviter l'heure de pointe. La madame ou le monsieur, ils vont cuire le rôti durant l'après-midi, puis à l'heure de pointe, ils vont fermer le four, puis ça va rester chaud. Tu sais, je caricature, mais c'est, si tout le monde sait que ça coûte moins cher entre telle heure et telle heure, un peu plus cher à partir de 5 heures, tu vois, un paquet de petits changements de comportement où on demande pas aux gens de donner un rein, on demande aux gens de savoir. Puis à la limite, si tu t'en fous pis t'as de l'argent pis tu t'en fous de payer une facture d'électricité, tu dépenses comme avant. Mais là, moi, je fais de la théorie. Le gouvernement, lui, est pris avec la politique, puis à compter des votes, puis il s'est dit, les gens sont pas prêts pour ça maintenant.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Il y a un partenariat entre différents corps policiers aujourd'hui qui a frappé un grand coup de filet. Près de 300 agents de la police qui sont allés arrêter dans les derniers jours 31 personnes en lien avec la pornographie juvénile. C'est une enquête qui avait commencé en automne 2022. Puis là, quand on parle de plusieurs corps de police, là, c'est ceux de Longueuil, de Québec, de Montréal, de Laval, de Gatineau. Tout ça en coordination avec la Sûreté du Québec.
Et là, c'est ce qui avait été formé là, il y a 2 ans. Là. Ça s'appelle l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile. Ça avait été annoncé officiellement par le gouvernement à la suite d'une série de reportages. Puis je pense aussi que faut pas dire ça parce qu'il faut pas que les gens fassent ça, c'est très mauvais là. Mais les policiers, les politiciens se rendaient compte qu'il y avait plus en plus de gens vraiment frustrés, vraiment choqués, qui voulaient devenir des justiciers, là, tu sais, qui embarquaient. On a encore eu une couple de cette semaine, là.
Des gens qui font de la justice citoyenne.
Eux-mêmes, qui vont sur le web, qui essayent de piéger des gens. Alors, la seule façon d'éviter ça, c'est que les gens sentent que la police est aux aguets sur les forums de gens qui font de la pornographie juvénile ou de la pédophilie. Les policiers sont là.
Puis je vais aller même plus loin que ça, Mario. C'est une thématique aussi dans plusieurs théories complotistes qui ont émergé dans les dernières années. La peur de la pédophilie, hein, qui revient au cœur des théories complotistes.
Que les dirigeants plus à gauche seraient pédophiles. Systématiquement.
Systématiquement, les élites sont pédophiles. Il y a un trafic humain d'enfants à grande échelle. C'est tout ce qu'on retrouve souvent dans la pensée complotiste.
Les complotistes QAnon, ils étaient radis qu'il y avait une pizzeria, sais-tu,
à... Le comète ping-pong à Washington.
Washington,
tout à fait.
Dans le sous-sol d'une pizzeria, c'était un lieu...
Le Pizzagate, c'est un peu ce qui a lancé tout ça, mais on était vraiment dans ces théories-là complotistes.
Mais il y a des gens qui rient pas de ça, il y a des gens qui sont convaincus que ça existait, là.
Absolument, puis qui sont convaincus que ça existe encore, qui voient ce phénomène-là à peu près partout, et qui disent, ben regardez, on voit jamais d'annonces, on voit tout le temps des annonces d'enfants qui partent, qui disparaissent, mais jamais d'enfants qui sont retrouvés. Ils vont où, toutes ces personnes-là? Comment ça se fait qu'on annonce jamais qu'on a arrête des pédophiles. Mais là, je pense pas que le gouvernement fait ça pour ça, ni la police, mais ça peut quand même venir aider un tout petit peu d'avoir là, ce genre d'annonce d'arrestation-là.
Donc le 31, dans toutes les régions du Québec.
Oui, on a frappé entre le 23 et le 26 janvier dernier tous des hommes âgés entre 37 et 79 ans, de métiers complètement différents. On écoutait tout à l'heure l'un de nos invités, justement, qui coordonne cette équipe intégrée et qui expliquait qu'il y a des professeurs là-dedans.
Ben, ça, c'est une classe à part, là.
Oui.
Quand t'as quelqu'un qui travaille avec les jeunes, le policier nous assurait que dans ces cas-là, on fait une autre couche de vérification. Dans le cas présent, il semble pas qu'il a mêlé son travail avec ça, mais il faut que ce soit. Moi, je veux dire, tu trouves quelqu'un qui travaille quotidiennement avec des enfants, qui se retrouve
vite
et faire le tour de la question et interroger les jeunes là.
Oui, d'ailleurs, c'est pas une enquête qui est complètement terminée puisque dans les arrestations, il y a suivi des perquisitions domicile des gens qui ont été interpellés et là-dedans, on a saisi beaucoup de matériel informatique, hein, tout ça pour être capable, évidemment, de trouver là tout ce qui est là matériel sexuellement explicite concernant des enfants et même ce qu'on a compris également là, dans cette dernière entrevue, c'est que de création de pornographie juvénile, ça peut aller même, c'est pas nécessairement de filmer, prendre des photos, ça peut même être d'écrire des choses tellement explicites à un enfant que ça devient comme.
J'ai l'impression que si t'écris un guide, là, de quoi faire avec un enfant, comment leurrer un enfant, t'écris des textes, là, ça rentre dans la définition de ce qui est criminel, là.
Ouais, donc c'est un grand coup de filet du côté de la police, puis même là du côté du SPVQ à Québec. Là, on cherche d'ailleurs à identifier d'autres victimes potentielles de Pierre Bouchard, un homme de 58 ans qui a été arrêté dans ce lot-là. Et lui aurait leurré des jeunes, incitation à des contacts sexuels également. Donc le corps de police qui recherche cet homme, des gens qui auraient été peut-être des victimes de cet homme potentiel, qui utilisait le pseudonyme Grand Mec QC sur les réseaux sociaux. Donc une enquête qui devrait se concrétiser encore plus là, dans les prochains temps, mais c'est un grand coup de filet de la police. Toujours du côté de la justice, le blogueur antiféministe et grand admirateur du tueur de masse Marc Lépine a été condamné aujourd'hui à un an d'emprisonnement. Jean-Claude Rochefort, lui, à 74 ans, qui n'exprime aucun remords, explique le juge, là, toujours pour des propos, là, le procès concernait des choses qu'il avait dit à la veille des commémorations de la tuerie de la Polytechnique en 2019, là. Il a dit des propos absolument horrible, là. Je vais en répéter quelques-uns, mais il avait invité des lecteurs là d'un site sur lequel il écrivait, là, un blog contre les femmes, où il y avait jusqu'à 60 000 personnes qui le lisaient. Mario, c'est pas rien. Ils avaient invité là les hommes à aller polir leurs carabines pour célébrer la Saint-Marc-Lépine Day. Évidemment, Marc Lépine, c'est l'homme qui a fait la tuerie de Polytechnique, tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes. En a fait l'apologie, il a fait des montages de photos de Monsieur Lépine, de Marc Lépine également. Jean-Claude Rochefort, vraiment, a eu une haine profonde contre les femmes et le juge n'a pas été tendre à son égard, alors que Monsieur Rochefort, lui, souhaitait éviter la prison ferme, se retrouver plutôt dans la collectivité pour purger sa peine parce qu'il avait déjà été reconnu coupable. Le juge a dit, vous allez en prison parce que vous avez aucun remords. Puis surtout, ça prend une peine sérieuse pour que vous compreniez la gravité de vos gestes. Donc, c'est quelque chose, Mario, là, des incitations à la haine comme celle-là.
Ben, T'as pas le choix, là. La prison sert aussi à ça, à faire entendre raison à des gens, mais au moins les arrêter. Je pense que la haine dans cet homme-là, tu pourras plus l'enlever, là. Il est trop tard, là.
Ouais, à son âge, puis à ce moment-ci.
Puis pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il a vécu avec une femme ou avec des femmes ou peu importe qui l'a rendu et qui l'a fait virer sur le top comme ça? Mais le juge, dans le fond, tu penses qu'à cette étape-là, si tu dis faut qu'il arrête de diffuser ça, de propager ça, d'encourager la haine, etc. Donc, la prison, moi, si je suis juge, la prison, c'est bien plus pour ça. C'est bien plus pour son comportement que tu dis, je pense que là, changer le gars, tu regardes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Mais comment tu peux en arriver à faire l'apologie de Mark Lépine? Je pense qu'il faut que t'aies, en plus d'avoir un côté misogyne fêlé, je pense aussi que t'as un côté un peu faire parler de soi, là.
Oui.
Un peu narcissique, faire parler de soi, de dire, regarde, moi, je vais dire de quoi, là, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, là, je vais vanter Mark Lépine, là, tu sais.
Il y a de ça, mais il y a aussi également qui fait partie lui, c'est une figure de proue de la mouvance sur le web des incels, des célibataires involontaires, qui est un mouvement qui déteste les femmes parce que, selon eux, profondément ancré dans ce mouvement-là, la sexualité des femmes leur revient de droit et eux de se retrouver célibataires.
Il y a des gens
qui
sont incels, là, en tout cas, je les défends pas, mais qui ont été rejetés beaucoup, là. Ils sont pas nécessairement favorisés par la nature.
Sont radicalisés par la suite.
Ouais, ils ont vécu une multitude de rejets, tout ça. Puis je pense pas que tous les gens qui vivent ce genre de frustration-là, puis qui rechignent, disons, contre les femmes qui les ont rejetées sur les réseaux sociaux, et c'est une autre étape de dire que t'admires Mark Lépine, là, quelqu'un qui les a qui en a assassiné 14.
Là. Ouais, et là, ça va t'intéresser, Mario, parce que dans sa défense, le blogueur misogyne a dit avoir écrit par satire, donc une défense qui revient souvent quand on parle. Ouais. On parlait la semaine dernière de cet homme qui a été condamné également là, pour avoir installé la haine contre les Juifs, qui disait que c'était de la satire, mais il a écrit des dizaines de milliers de textes sur les Juifs. Et là, Monsieur Rochefort, dans ce cas-ci, lui a présenté une simili-défense de Tintin. Oui, oui, il a présenté même deux des albums d'Hergé en défense parce que dans les montages qu'il faisait de Mark Lépine, armé jusqu'aux dents devant la Polytechnique, c'était extrêmement violent, mais on retrouvait le personnage célèbre d'Hergé. Il y avait Tintin dans ses montages et lui a essayé d'utiliser ça comme défense en disant, ben voyez...
Mais mettais-tu vraiment Tintin dans ses montages?
Hein? Absolument. Ils ont deux albums de Tintin qui ont été présentés en preuve par la défense. Ça n'a pas vraiment été
aucun
retenu.
Rapport. Sur mon avis, c'est comme aucun rapport. Là.
Ouais, c'est absolument étrange comme défense. Mais bon, donc un an de prison ferme pour Jean-Claude Rochefort dans ce cas-ci.
Tout savoir en 24 minutes.
Il y a un magasin tout près de notre bureau, Mario, qui va fermer ses portes.
C'est plus que tout près. C'est nos voisins.
C'est nos voisins directs. Le magasin Archambault de la rue Berry qui va fermer. Donc, à partir du mois de juin, ça a été annoncé ce matin aux employés parce que c'est devenu extrêmement difficile de rendre le magasin rentable, explique-t-on. Et on décrit un peu la détérioration croissante, je vais utiliser leurs propres mots, des perspectives commerciales aux alentours de la place Émilie-Gamelin en disant que ça rend impossible le renouvellement du bail qui vient à échéance. Et on nomme toute une liste, Mario, là, toujours sous des termes un peu aseptisés. Là, on parle de transformation du secteur d'Émilie-Gamelin, laboratoire de mixité urbaine autour d'ici. Mais pourtant, la liste des causes qui nuisent à l'achalandage suffisant, elle est énorme dans ce qu'il cite. Là. On parle de la réaffectation de l'hôtel à la place du Puy pendant la pandémie, l'ancien terminus d'autobus qui est encore vacant, la désaffectation du quartier latin, la déconstruction-reconstruction du CHUM, le redéveloppement du Calderie de la Terre immobilier, la rue Sainte-Catherine-Est qui est piétonnée à l'été, le télétravail, les téléétudes à l'UQAM, et j'en passe tout ça en plus avec les nombreux travaux qu'il y a ici.
L'ancien député avec qui j'ai siégé à l'Assemblée nationale, l'ancien député qui était dans la circonscription ici, donc qui connaît bien le quartier, André Boulris, ancien député du Parti québécois, a écrit sur Twitter parlant de cette nouvelle qui doit l'attrister, parce que c'est quand même une institution, parce que même quand on avait enlevé l'affiche du Archambault, là,
oui.
Elle avait été remise au nom du patrimoine de la ville, oui. Tellement c'était important. Alors, Boulris écrit, « Par je ne sais quelle pudeur ou simplement autocensure, Archambault ne dit pas que ce coin est devenu infréquentable, itinérant intoxiqué, camping devant les devantures, pusher, bagarre, quêteux, rue sale. »
C'est sûr que c'est le terme, c'est ce que je voulais dire quand on parle de terme aseptisé. Mais, là, ils ont beau dire que c'est la détérioration croissante autour, mais c'est certain que c'est pas toujours très beau. Puis il y a plusieurs magasins de commerce qui ont fermé là, sur la même rue ici, c'est au coin Berry et Sainte-Catherine-Est, mais surtout la rue Sainte-Catherine-Est ici. Il y avait un Da Giovanni avant, c'est fermé. Il y avait un Amir avant, c'est fermé. Il y avait un Presse, magasin de presse qui est fermé. Il y avait le bar L'Escalier, très fréquenté par les jeunes de l'UQAM, qui est fermé également. Puis tout est placardé. Ça n'a jamais été renouvelé, là.
Non, ça fait dur le coin, mais c'est un peu le symptôme du Montréal. Tu sais, quand on parle des problèmes de santé mentale laissés de côté, de la détérioration d'un certain tissu social, peut-être dans le quartier ici, tu le vis avec des interventions. Tu sais, quand on parle du travail policier qui devient un travail de travailleur social, de santé mentale, c'est pas vraiment, tu sais, t'arrêtes pas vraiment des bandits, là. T'es pogné toujours des appels du monde qui ont fait leurs besoins dans une devanture ou qui traînent dans une devanture ou qui sont tombés endormis, là, les gens du commerce peuvent plus. T'es là-dedans. Et, si vous voulez faire votre thèse de doctorat ou de maîtrise en sciences sociales sur les policiers pris pour faire de l'intervention, venez-vous-en sur le coin de rue ici, vous avez votre laboratoire.
Économie.
Ce sont des informations qui ont été diffusées par l'assistant virtuel ChatGPT. 1 million d'utilisateurs ont utilisé leur service, leur tout nouveau service, en seulement 5 jours. Ce qui est assez impressionnant quand on prend en compte le nombre de temps, la quantité de temps que ça a pris pour d'autres sites comme ça
D'autres sites à succès, là, qui sont d'autres monstres de succès. Là.
D'autres monstres de succès, exactement, avoir eux-mêmes 1 million d'utilisateurs. Là, c'est un robot conversationnel, l'assistant virtuel, le ChatGPT, t'écris quelque chose, il te répond. C'est absolument ahurissant.
En fait, tu poses une question, puis ça... Moi, tu sais qu'il y a tellement... Moi, j'ai jamais pu l'essayer. Hein. Je suis allé à chaque fois, ça me dit que le nom...
Il est surchargé.
La capacité d'utilisateur est atteinte.
Il faut que t'essayes ça, Mario, tu vas...
Il faudrait que j'aille de nuit ou je sais pas quand. Là.
C'est terrifiant. C'est émerveillant et terrifiant à utiliser parce que tu peux le poser à peu près n'importe quelle question, il va te répondre pour toi, il va écrire.
Tu sais que la meilleure, là, j'ai vu des gens qui se sont amusés, pour vrai, là, des gens qui ont utilisé ChatGPT, et sais-tu quelles questions ils ont posées?
Vas-y.
Tu la devineras pas.
Vas-y.
Est-ce qu'il doit, peux-tu laisser ça dans le cours?
Et qu'est-ce qu'il a répondu?
Il a répondu une explication un peu technique, là. Une motonnée. Il a compris la question. Il a pas compris la joke de François Pérusse.
Mais ce qui est complètement fou, c'est que dans quelques temps, il pourrait finir par comprendre la joke de François Pérusse. Mario, si on lui nourrit assez d'informations, ChatGPT continue à évoluer constamment.
Donc là, dans ce cas-ci, il a expliqué, là, les risques, puis à l'intérieur, de garder à l'intérieur une motoneige, les intempéries. Donc une réponse comme plus théorique, mais il a quand même répondu à la question.
C'est peut-être à lui que le vendeur téléphone aurait dû s'adresser. Dans ce cas-ci, Mario, j'ai le goût de...
Oui, donc donne-nous les talents de donner des chiffres sur combien ça a pris de temps, de mois, parce que ça a pris 5 jours à ChatGPT pour atteindre 1 million.
Pour le premier million, mais par exemple, Instagram, ça a pris 2 mois et demi, Spotify, 5 mois, Dropbox, 7 mois, le Facebook, 10, après ça, Twitter, 2 ans, Airbnb, 2 ans et demi, Netflix, 3 ans et demi, mais là, attention. Faut prendre tout ça dans son contexte. Netflix a été lancé en 99, hein. Twitter en 2006. Facebook en 2004. C'est toutes des années dans lesquelles le trafic Internet était beaucoup moindre. Un. Et deux, c'était tellement moins viral quand on lançait quelque chose. Quand tu lances Facebook, c'est un des endroits où les choses pouvaient devenir virales par la suite.
Twitter, ça a été lancé en 2006, hein?
Oui.
Moi, j'ai dû joindre en 2008, début 2008, si je me trompe pas.
Oui.
Mais tu sais, on était pas si nombreux, c'était un peu de monde des médias, de la politique, mais...
Ben oui, et c'est pour ça que quand ChatGPT, comme ça, est lancé maintenant, en 2023,
dans l'heure qui suit, tout le monde est au courant.
Exact.
Là, l'information circule tellement vite.
Et tout le monde va aller l'utiliser, mais c'est quand même un record intéressant là, à regarder comme ça. Puis ChatGPT,
je pense que c'est pas fini.
C'est vraiment pas fini. Il y a au moins 7 décès qui ont été constatés dans une fusillade à Jérusalem-Est, dans une synagogue, pendant les prières du début du Shabbat. Il y a un homme qui est rentré, qui a fait feu, qui a été neutralisé par la suite. Là, on ne sait pas trop si c'est par les gens sur place ou par les policiers à ce moment-ci. Mais tout ça survient au lendemain des opérations israéliennes qui ont tué 10 Palestiniens la veille en Cisjordanie. Les tensions sont toujours pas redescendues dans la région. Faudra en apprendre un peu plus sur l'assaillant et ses origines. Mais c'est certain que c'est une région dans laquelle, là, on n'a pas fini de voir des violences puis une certaine escalade là, de tout cela. finalement deux vidéos relâchées par la police aujourd'hui qui sont très attendues. Un premier aujourd'hui qui montre les vidéos de l'assaut sur le mari de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Monsieur Paul Pelosi, 82 ans, qui avait été attaqué à son domicile par un homme armé d'un marteau. Et la vidéo, Mario, c'est quelque chose à regarder.
Ouais, ben moi, on s'imagine pas une scène, parce que dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que Monsieur Pelosi avait gardé toujours une communication verbale avec l'individu qui avait son marteau des mains, mais il l'avait jamais frappé.
Non.
Et quand il l'a frappé, c'est après que les policiers ont cogné à la porte, ouvert la porte, c'est devant, à quelques mètres, à deux mètres devant les policiers, qui s'est mis à bûcher dessus.
Oh, absolument hurissant, là, dans le visage des policiers qui se sont rués sur lui, Monsieur Pelosi qui avait réussi à...
Mais qui ont quand même leur fou un peu, c'est-à-dire que les policiers, tu dis, OK, ils ont agi en retard, là. Ils ont laissé un homme de 80 ans. Je sais que ça s'est passé vite, mais...
Pis c'est spécial parce qu'il y a également des enregistrements de l'appel au 911 de M. Pelosi qui a été fait alors qu'il parle littéralement sous la supervision de la personne qui est rentrée chez lui. Je rappellerai que l'assaillant, dans ce cas-ci, là, M. DePape, était rentré, voulait trouver sa femme, Nancy Pelosi, la ligoter et la menacer pour qu'elle avoue tous les crimes commis par les démocrates. C'est un complotiste lui-même, sans quoi il voulait lui briser les rotules. C'est ce qu'a affirmé aux policiers. Donc, vidéo assez troublante. Et la deuxième, elle n'est pas encore relâchée, mais on l'attend avec impatience du côté de la police de Memphis, où il y a 5 policiers qui ont battu à mort un Afro-Américain. Et on dit que les 5 policiers sont limogés, sont inculpés pour meurtre pour l'instant, mais on dit que la vidéo est assez difficile à voir. Mais
l'avocat de la famille de M. Nichols a dit que les policiers, les laissaient entendre que les 5 frappaient à coups de bâton sur lui. Il dit que c'était comme une piñata, là, c'est la métaphore qu'il a utilisée, donc ça va être révélé à 18h. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.